Je ne suis pas certain, si on s'imagine être il y a environ 10 000 ans, que nos ancêtres aient jamais rêvé qu'un robot effectue certaines des tâches de leur quotidien. Mais je ne suis pas sûr qu'ils auraient rejeté l'idée. Si on leur avait proposé un robot pour aller chasser des animaux dangereux à leur place, ou, par temps hostile, d'aller récolter des graines ou des fruits et peut-être cuisiner le tout dans la foulée, il est fort probable que certains de nos ancêtres auraient accueilli ce robot à bras ouverts. Aujourd'hui, de nombreux métiers pénibles ont été remplacés par des machines, des automates, des robots, évitant à de nombreuses personnes de se ruiner le dos, de respirer des substances toxiques ou d'effectuer un travail trop machinal, justement. Certaines avancées mécaniques permettent aussi de soigner, de diagnostiquer, d'aller dans des endroits inaccessibles, à tel point que, lorsqu'on en parle rapidement comme ça, les robots semblent n'être qu'un énorme bénéfice pour l'humanité. Et pourtant, on a tous et toutes vu un nombre incalculable de films dans lesquels l'humanité est attaquée par ses propres créations.
Il faut que je sache comment Skynet est fabriqué. Qui en est responsable ?
L'homme le plus directement responsable est Miles Bennett Dyson.
Qui c'est ?
C'est le directeur du projet spécial à la Société de Systèmes Cyberdyn.
Pourquoi lui ?
Dans quelques mois, il crée un type révolutionnaire de microprocesseurs. Dans 3 ans, Cyberdyn devient le plus important fournisseur de matériel électronique militaire. Tous les grands bombardiers sont équipés de systèmes ordinateurs Cyberdyn qui évitent la main-d'œuvre humaine. Cela leur permet de voler avec une parfaite efficacité opérationnelle.
On a tous et toutes aussi vu des histoires dans lesquelles des robots, humanoïdes en général, sont aimés par des humains.
Ça fait quoi d'être vivant dans cette pièce, là maintenant ?
J'aimerais te prendre dans mes bras et te toucher.
Comment tu me toucherais ?
En fait, on a tous et toutes déjà imaginé un monde dans lequel la notion même d'humanité commence à se dissoudre, à devenir une autre notion, celle dans laquelle la distinction entre humain et machine n'est pas si claire. Alors, qu'en est-il de tout ça ? Que sont-ils devenus aujourd'hui ces robots et que seront-ils demain ? Pour tenter d'y voir un peu plus clair dans ce que la robotique est en train de devenir, j'ai l'honneur d'accueillir 3 invités.
Bonjour, mon nom est Nicolas Mansart. Je suis chercheur en robotique au LAS CNRS dans l'équipe Gepetto. Mon travail, c'est d'étudier, de comprendre comment on fait bouger des robots avec cette évidence fluide et facile qu'ont les êtres vivants, les humains, les animaux. Et en particulier les robots qui ont des bras et des jambes, comme par exemple les robots humanoïdes. Je suis aussi membre de l'Institut en intelligence artificielle qui s'appelle Aniti, qui est à Toulouse, qui est ce qu'on appelle un cluster en intelligence artificielle. Et notre spécialité à Toulouse, c'est d'étudier la mise en œuvre des IA dans le monde réel et de leur donner ces garanties dont on a besoin, par exemple dans les avions ou dans les bus, pour s'assurer que l'IA ne déraille pas. J'ai commencé à aborder la robotique comme un informaticien. C'était vraiment un plaisir intellectuel de travailler sur cette logique un peu froide et facile qu'ont les ordinateurs. Mais à la fin de mes études, il manquait quelque chose de travail dans le monde réel. Et j'ai toujours été un petit peu jaloux, admiratif de ces super pouvoirs qu'ont les grands sportifs ou les artistes, de pouvoir faire des gestes incroyables, de faire une rondade sur une slackline, de peindre une grande toile, de jouer du violon. Et je pense que j'ai un peu le rêve, à travers l'animation des robots, de capturer ces gestes-là, même si c'est un peu vain.
Bonjour, je m'appelle Claire Dune et je suis roboticienne. Je m'intéresse à la commande des systèmes robotiques à partir de leur perception. Je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Toulon. J'enseigne à l'IUT. Et j'enseigne aussi dans les masters de robotique de cette université. En 2015, j'ai participé à la création d'un laboratoire qui s'appelle le COSMER et qui est un laboratoire dédié à la robotique à l'Université de Toulon. On a monté ce laboratoire en partenariat avec l'IFREMER, qui est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et qui travaille en particulier sur la robotique grand fond. Donc ma recherche, elle porte en particulier sur la vision pour l'exploration des grands fonds marins et aussi des fonds à faible profondeur où le soleil illumine encore la colonne d'eau et où les robots collaborent avec des plongeurs. Et je travaille jusque dans les abysses où cette fois-ci c'est la nuit constante et la lumière provient que de quelques organismes et de nos lampes de nos robots. Donc je suis également pour le CNRS co-animatrice d'un axe qui s'appelle robotique et éducation où je m'intéresse à la diffusion de la culture scientifique et de la robotique.
Je m'appelle Enki Bilal, je suis auteur, dessinateur, principalement de bandes dessinées, de livres. Je suis également peintre, réalisateur. Et je m'intéresse à, d'abord au futur, je m'intéresse à la science, je m'intéresse à la science-fiction. Alors la science-fiction, c'est un terme un peu générique, un peu galvaudé, mais là, aujourd'hui, je pense qu'il a toute sa signification, puisque la science est au cœur du futur, et donc c'est un futur qui arrive et qui nous fascine et nous inquiète aussi à la fois. Mon premier émoi de robotique, il date peut-être de la vision d'un film qui est fondateur pour moi sur plein de plans, qui est 2001, Odyssée de l'espace, et je pense à ce robot que ceux qui ont vu le film n'ont pas oublié, qui est à la fin du film, notamment qui prend le vaisseau en main, littéralement, et qui élimine les humains. Ce robot s'appelait HAL dans la version anglaise et Carl dans la version française, et ce robot élimine les humains parce que il commence à avoir lui-même sa propre autonomie, voilà. Donc ça rejoint un peu les sujets qu'on va aborder, j'imagine.
Absolument. Eh bien, Inky Bilal, Claire Dune, Nicolas Mansart, bonjour. Et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec le public de la Maison de la Radio et nous allons parler de robots.
Big Bang, Christophe Galfard.
Alors, dans la petite introduction au début de cette émission, on a entendu deux extraits de films. J'imagine que pas mal d'entre vous ont reconnu Terminator 2 et Her en deuxième. Voilà, absolument. Terminator 2, donc, de James Cameron, qui date de 1991, et Her de Spike Jonze avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson. Et dans ces extraits, quand on a discuté un petit peu pour préparer cette émission, Nicolas Mansart, nous étions en vidéo et j'ai eu l'honneur de voir l'intérieur de votre laboratoire. Et j'ai très envie que vous nous racontiez à quoi il ressemble, ce laboratoire de robotique.
Alors, mon laboratoire de robotique, c'est une très belle pièce, d'abord qui commence à être un peu ancienne, elle date des années 60. Et c'était des grandes verrières pour assembler notamment de l'électronique pour des satellites. Donc vous pouvez imaginer ces grandes verrières avec beaucoup de lumière qui rentre, une très, très grande hauteur du plafond et une grue qui descend au milieu de la pièce. Et à cette grue, vous allez avoir différents prototypes de robots, notamment des robots humanoïdes qui sont accrochés. Donc très souvent dans la pièce vont traîner, accrochés soigneusement, hein, deux ou trois grands prototypes de robots humanoïdes. Donc faut imaginer des robots qui font 1m70, 1m80, 70 à 100 kilos, 100 000 à 1 million d'euros de budget de matériel, qui sont là, soigneusement préparés pour la prochaine expérience. Et puis, dans le fond, vous avez tout ce fouillis vivant qui caractérise un petit peu un laboratoire de recherche, avec des tas d'étagères dans lesquelles vous trouvez tout type de matériel, des poses de soudure, des imprimantes 3D pour concevoir, réparer nos robots, des caméras qui vont filmer toute la pièce, de manière à ce qu'on, quand on fait des expériences, on capture tout ce qui se passe et qu'on puisse le comprendre, le réinterpréter, en particulier si ça se passe mal et qu'il faut aller débugger l'algorithme.
Il y a quelque chose d'absolument fascinant dans la vision d'un robot humanoïde, et je l'ai eu hier en regardant l'intérieur de votre laboratoire, notamment l'un d'entre eux qui a aussi complètement choqué le réalisateur de cette émission, Benjamin Riquet, qui est là et qu'on salue, parce que le robot était recouvert de capteurs tactiles, comme s'il avait une sorte de seconde ou de première peau.
Donc c'est notre prototype qui est maintenant le plus ancien mais qui reste en fonctionnement, qui s'appelle Talos. C'est un robot espagnol qui est assemblé par la société PAL Robotics, avec qui on a un laboratoire joint. Donc là, c'est vraiment un robot très massif. Lui, il fait 100 kilos, il est assez difficile à opérer, il est assez risqué. On voit bien ses moteurs, donc il est noir et blanc. On voit très bien les câbles qui sortent, qui couvrent son architecture électronique. Et donc sur sa coque en plastique, qui pourrait dire, et sa première peau, donc qui va vraiment protéger ce qu'il y a à l'intérieur, on a collé des petits hexagones en gel. Donc c'est des capteurs tactiles qui vont en fait venir essentiellement sentir quand on s'approche. Donc ça émet un champ de proximité. Et quand on s'approche du robot, le robot perçoit qu'on est à proximité de lui. Et donc ça, on s'en sert pour étudier comment les robots vont venir embrasser des objets. Donc s'il faut porter un gros carton pendant un déménagement, vous n'allez pas le prendre avec juste les deux mains, vous allez vraiment le prendre avec tous les bras, voire avec le torse. Et pour l'instant, on n'a pas d'algorithme pour faire ça. Donc cette peau nous sert à étudier comment est-ce qu'on porte des objets avec l'intégralité de son corps.
Claire Dune, cet ajout d'un sens tactile, par exemple, sur un robot, est-ce que ça participe à la définition même de ce qu'est un robot? Vous définiriez ça comment, vous, un robot?
Alors, un robot, c'est une machine qui est constituée d'actionneurs, donc qui peuvent lui permettre de se déplacer, mais aussi d'agir sur l'environnement. Donc un robot, il a un ordinateur qui lui permet de comprendre ou de calculer, mais aussi il doit pouvoir déplacer des objets, les porter, voire les assembler ou les transformer. Donc un robot, c'est une machine qui agit sur son environnement.
Enki Bilal, moi, franchement, la description du laboratoire de Nicolas Mansart m'a plongé, même quand je l'ai vu en vidéo, dans certains de vos livres, pour être honnête, où il y a une sorte d'atmosphère absolument hallucinante, de presque de Frankenstein, je ne sais pas, ou de... Ça vous inspire quoi, vous de...
Bah oui, moi je suis évidemment fasciné par Frankenstein, effectivement, c'est un peu l'ancêtre, hein, on a c'est toujours cette intervention de l'homme qui veut fabriquer la créature, qui l'aventure de l'humain, elle est exceptionnelle, hein, et de la science, c'est effectivement un des vecteurs les plus importants de nos progrès. Je fais une parenthèse sur la régression humaine. Par ailleurs, ce qui est dommage, c'est qu'on progresse dans la science et en même temps, on a les sociétés qui régressent sur tout un tas de plans. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, moi, cette fascination, elle vient effectivement d'une certaine littérature. La science-fiction a énormément traité ces sujets, évidemment, l'imaginaire totalement débridé. Et là, on est face à deux spécialistes, deux acteurs de ce monde en train de naître. Alors, moi, ce qui me fascine, c'est que vous avez évoqué, Claire, vous avez évoqué les profondeurs, les grandes profondeurs. Comment vous les travaillez, ces grandes profondeurs? Vous n'y allez pas.
Alors, les plongeurs peuvent aller dans les premières centaines de mètres.
Ouais.
Et après, ils sont relayés par les robots, puisqu'on ne sait pas aller plus profond.
Oui, bien sûr.
On a quelques combinaisons qui nous permettent d'aller jusqu'à 200 mètres.
Voilà, ça, je savais qu'on pouvait aller plus de 30.
Ouais. Et qui permettent d'englober et de protéger complètement un plongeur. Et ensuite, si on veut aller plus profond, il faut aller dans un sous-marin et emmener les plongeurs plus profondément.
Peut-être que vous entendez... À l'antenne, un petit souffle qui est en train d'apparaître. C'est parce que Nicolas Mansart est en train de nous préparer une petite surprise, notamment pour le public qui est là. Alors ne bondissez pas de frayeur lorsque vous allez voir une chose s'avancer vers vous. C'est ce qui arrive en ce moment. Il est en train d'allumer une sorte de robot d'animal.
Il avance. Modèle.
Alors je vais vous décrire ce qu'il y a. On a l'impression que c'est un chien sans tête, juste avec quatre pattes, qui est en train d'avancer vers le public. Et la vision est très 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 étrange, parce que on a vraiment l'impression qu'il est vivant. Là, il va être en train de monter sur ses pattes pour nous faire une petite culbute et tenir sur ses pattes avant.
Si jamais... C'est un mâle, parce qu'il a levé la patte arrière, j'ai vu.
Ah oui, c'est un mâle. Et là, c'est un mâle circassien. Alors, on va écouter.
Les deux, là, maintenant.
Là, il est en train de passer d'une patte à l'autre sur les deux pattes avant et de taper contre mon bureau en passant. Certainement parce qu'il essaie de me dire quelque chose. Il y a une vision à la fois apocalyptique, je trouve, dans ce genre d'objet, et en même temps, ça démontre une forme de maîtrise technologique qui est assez étonnante. La technologie à l'intérieur de ces robots-là, est-ce qu'on l'avait il y a 15 ans? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement nouveau? Est-ce que c'est quelque chose d'assez révolutionnaire, ce qui se passe à l'intérieur de ces robots pour qu'ils existent?
C'est une évolution continue. Ce qu'on met en premier en avant, c'est l'intelligence artificielle. Donc là, ce qui tourne quand le robot fonctionne, c'est un réseau de neurones qui, en permanence, récupère les perceptions du robot, l'état de ses moteurs. Il a un sens de l'équilibre qu'on appelle une centrale inertielle, un gyroscope et un accéléromètre. Donc le réseau de neurones va récupérer ça et va ensuite décider quelles sont les actions à très haute fréquence qu'il envoie au moteur. Donc 50 fois par seconde, le réseau de neurones va procéder les entrées et donner une sortie. Donc ça, c'est une première mutation.
Alors juste, un gyroscope, c'est quelque chose qui permet de savoir si on est en train de tourner, plus ou moins, alors qu'un accéléromètre, c'est pour savoir si on est plus ou moins en train de tomber. Et le réseau de neurones est dans le robot, c'est une sorte d'endroit où toutes ces informations sont stockées et s'adaptent petit à petit, c'est ça qui se passe?
Voilà, donc le gyroscope et l'accéléromètre, c'est exactement ce que vous venez de dire. On peut le comparer chez l'humain au sens de l'équilibre, c'est vraiment la même fonction. Et essentiellement, nous, on va s'en servir pour savoir à quel point le robot est orienté par rapport à la gravité. Qu'est-ce qu'il est droit? Est-ce qu'il est en train de s'incliner? Et ça va lui permettre, bien sûr, de deviner s'il est en train de tomber ou pas et de comment corriger ça. Donc le réseau de neurones, il est implémenté, c'est un logiciel qui est implémenté sur les calculateurs au bord du robot. Donc comme disait Claire tout à l'heure, un robot c'est un ordinateur qui est connecté à des moteurs et à des systèmes de perception. Donc ici essentiellement les capteurs des angles du robot et la centrale inertielle, donc le sens de l'équilibre, captés à l'ordinateur qui fait tourner le réseau de neurones, captés aux moteurs qui vont exécuter les commandes pour équilibrer le robot.
Alors à quoi ça sert de fabriquer des robots comme ça?
Déjà en premier lieu, et ça c'est quand même avec Claire, je pense que Claire tu seras d'accord pour aller dans ce sens-là, nous en premier lieu c'est pour produire de la connaissance. Notre premier rôle à nous c'est de s'amuser à savoir comment est-ce que des machines doivent marcher, quel est le sens du mouvement, le connecter aussi à des explications de comment les êtres vivants fonctionnent. Toutes ces recherches-là sont interconnectées avec souvent des chercheurs qui vont s'intéresser plus, comme moi par exemple, vers la mécanique que vers la biologie. Dans mon équipe, il y a aussi des gens qui étudient vraiment la biomécanique. Donc ça, c'est la première raison, c'est simplement pour la beauté de la science. Ensuite, bien sûr, on va avoir des applications qui vont surgir derrière. Et les robots à quatre pattes, comme celui qu'on a entendu ici, donc ça c'est vraiment un prototype, c'est un petit robot, il fait une petite quinzaine de kilos. Il vaut une quinzaine de milliers d'euros, donc le prix d'une voiture assez sympa. C'est des robots qu'on va utiliser pour l'inspection de sites. Donc on peut tout à fait imaginer ces robots dans une usine pétrochimique en train de chercher où est-ce qu'il y a des fuites ou bien s'il y a des capteurs qui ne fonctionnent pas correctement. Ensuite, c'est des robots qui vont nous permettre aussi d'aller explorer d'autres types de robots. C'est ça le but premier de mon laboratoire. La marche, c'est représentatif d'une complexité qu'on a ensuite dans la manipulation, dans la nage, pour ce qui va par exemple concerner Claire, qu'elle pourra élaborer. Et finalement, tous ces mécanismes-là fonctionnent quand même assez essentiellement de la même manière, c'est-à-dire c'est en gros les mêmes maths qui vont tourner à l'intérieur. Et donc, ce qui va beaucoup nous intéresser à terme, c'est d'aller vers des robots qui vont aller accomplir beaucoup de tâches différentes que pour l'instant, c'est pas réalisé avec des robots, soit parce que c'est des tâches qui sont trop compliquées.
Comme quoi, par exemple ?
Les tâches qui sont très compliquées actuellement, ça va être des tâches qui vont demander beaucoup de versatilité, soit parce qu'on veut que le robot accomplisse plein de tâches différentes, donc ça serait un robot qu'on mettrait chez soi, on va vouloir qu'il ait une capacité d'action assez diverse, soit parce qu'on est en usine et qu'on a envie de pouvoir programmer de manière assez versatile le robot. Donc ça c'est un sujet qui intéresse beaucoup, est-ce qu'on peut réussir à produire mieux et pour moins cher. Mieux, ça veut dire on veut un centre de production qui soit capable de produire, alors peut-être de manière un peu excessive, mais un jour des t-shirts et le jour suivant des baskets, le troisième jour des stylos.
Ça, on ne sait pas faire encore.
Et ça, on ne sait pas faire. Et réparer aussi. Prendre un produit qui soit abîmé et de comprendre avec des outils versatiles, pas forcément des mains, mais au moins des outils qui s'adaptent, comment démonter, réparer, recycler au sens vrai du terme, c'est-à-dire remettre vraiment dans un cycle de production. Ça, c'est des questions qui sont vraiment encore complètement ouvertes, avec bien sûr le rêve ultime auquel on croit ou pas, j'y crois pas forcément beaucoup, du robot esclave universel qui pourra faire toutes les tâches que vous voulez à la maison.
Et pourquoi vous n'y croyez pas trop à ça ?
Pour différentes raisons. D'abord, je suis pas sûr de me sentir très confortable avec une grosse baisse mécanique comme ça qui serait chez moi et qui pourrait tout faire à ma place.
C'est pas forcément. Alors que c'est le cadre de travail dans lequel vous êtes. C'est peut-être parce que vous auriez l'impression d'être au bureau.
Voilà, c'est ça. ensuite, parce que là, tout de suite, c'est hors de portée. C'est-à-dire que pour avoir un robot qui va vraiment avoir une action intéressante chez vous, il faudra que ça soit un grand robot qui pèse assez lourd. Pour l'instant, on n'arrive pas à garantir que ces robots ne vont pas avoir de mauvais comportements. Par exemple, s'il a deux pattes, on ne peut pas garantir qu'il ne tombe pas. Et s'il tombe, il va se casser, il risque d'abîmer des choses. Et s'il y a un enfant, il risque de le sérieusement
de l'écraser, finalement. Ouais.
Donc, avec des grands robots, pour l'instant, on n'a pas assez de capacité-là. Et à long terme, si on se projette un petit peu dans de la science-fiction, ça ne me semble pas être le problème ultime de l'humanité en ce moment, d'avoir un robot qui vient plier le linge chez soi. Donc, j'espère que mes robots permettront d'aller faire des choses qui sont plus utiles à l'humanité que plier du linge dans les maisons.
Ça vous dirait d'avoir un robot chez vous, Enki Bilal ?
Celui-ci est amusant. Il est amusant.
Le petit chien, là, qu'on vient de voir.
Non, c'est amusant, d'ailleurs, de voir à quel point. Alors, j'ai noté que votre métier, c'était de vous amuser. Je trouve ça formidable comme définition, mais c'est vrai. Il y a ce modèle qui est l'animal. C'est ça qui est étonnant de voir que le robot, au départ, on va être obligé de copier le mouvement de l'animal. Peut-être même celui de l'homme. Il tiendra peut-être debout. Moi, je crois davantage. Mais ça, c'est de la fiction. C'est ma façon de me projeter dans un futur lointain. Aussi à une robotique parfaite où on aura des répliques parfaites. Vous citez un film que tout le monde a dû voir, Blade Runner par exemple, où les robots on peut pas les distinguer des humains. Je veux dire, il y a une espèce de perfection absolue. Donc ça,
les
vous n'y croyez pas, j'imagine, vous n'y croyez
émotions.
Pas. Mais je pense que ce sera possible peut-être un jour. Si l'humanité survit à ce qui nous attend.
Eh ben justement, je vous propose. Donc, sans mettre de message subliminal, je vous propose d'écouter La fin du monde de Sam Sauvage.
« l'as pas vu venir. Accordez-nous une seconde avant d'atterrir. La nuit nous guette, elle nous regarde danser muette. On est jeunes, ils sont bêtes. Et là dans le club, on rêve d'un monde nouveau. Saoulés dans le pub, on sera des héros. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas de danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde. C'est pas moi qui le dis, à nous les tragédies. T'entends cette mélodie, regarde devant, au-dessus des incendies. Le ciel qui nous sourit, et tous ensemble on crie. Et là dans le club, on rêve d'un monde nouveau. Saoulés dans le pain, sera des héros. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas de danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et bien que ce soit la fin du monde, j'entends le vent du nouveau monde souffler avec moi pour la fin du monde. La fin du monde. Ça nous empêche pas de danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde.
Nous sommes toujours en compagnie de mes invités, l'auteur de bande dessinée et réalisateur Enki Bilal et les roboticiens Claire Dune et Nicolas Mansart et le public de la Maison de la Radio.
Big Bang, Christophe Galfard sur France Inter.
Alors avec vous, Nicolas Mansart, on parlait de robots qui ont des bras et des jambes. Avec vous, Claire Dune, on parle d'un autre type de robot. Car vous, ce qui vous intéresse, c'est l'exploration aquatique.
Donc les robots sous-marins n'ont pas de bras, pas de jambes. Ils se déplacent en utilisant en fait toutes les forces hydrodynamiques. Donc en fait, ils vont se déplacer à la fois avec des propulseurs et des hélices, comme on connaît, mais aussi en utilisant des systèmes de ballast qui vont se remplir pour couler et se vider pour remonter. Sur certains types de robots, on va vraiment utiliser la vitesse qu'ils développent à la descente pour planer sous l'eau. Donc il y a des types de robots extrêmement silencieux qui vont être utilisés sur des très très grandes périodes pour aller mesurer des caractéristiques physiques et chimiques de l'eau en essayant d'avoir la signature la moins importante possible pour l'environnement. Donc en fait, dans les robots sous-marins, on va retrouver plusieurs types d'applications. Des applications d'écoute de l'environnement, des mammifères, d'écoute biochimique des océans. Des applications aussi pour aller faire de la recherche en archéologie sous-marine et aller explorer, retrouver notre histoire qui a été enfouie dans les océans. Il y a vraiment énormément de découvertes historiques qui sont encore à faire au fond des océans. Et après, il y a tout l'aspect surveillance des océans. Ce qu'on voit apparaître de plus en plus maintenant, l'extraction peut-être de ressources dans le fond des océans. Et puis d'autres aspects qu'on connaît aussi, qui est l'océan nous permet une certaine furtivité. Parce que quand on est sous l'eau, on est caché, on ne peut plus nous entendre, on peut plus les ondes électromagnétiques ne passent pas. Donc on ne peut plus se connecter à des robots dès qu'ils sont immergés.
Est-ce que ça veut dire que lorsque vous envoyez des robots au fond des océans, vous les dotez d'intelligence artificielle pour pouvoir se déplacer tout seul?
Alors ça veut dire qu'un robot, dès lors qu'il a franchi les deux premiers centimètres d'eau, S'il n'est pas relié avec un fil à la surface, il est tout seul. Il est en autonomie, il exécute sa mission sans qu'on puisse communiquer avec lui. Donc soit on préenregistre la mission, dans ce cas-là l'intelligence embarquée est quand même assez limitée, il va se mettre à une profondeur qu'on a préétablie et il va faire un espèce de parcours de tondeuse à gazon au fond de l'eau pour par exemple cartographier toute une zone, ou alors on va lui mettre un peu d'intelligence en disant si tu trouves une cheminée thermale, mets-toi à 2 mètres de la cheminée tout du long, donc il va un peu adapter ses trajectoires. Et là ce qu'on aimerait maintenant c'est dire à un robot... va dans un endroit que je ne connais pas du tout. Par exemple, il y a eu la création de volcans il y a quelque temps au large de la Réunion et de Mayotte. Ben, pouvoir dire au robot, va regarder cette nouvelle construction géologique dont je ne connais rien, tout en te protégeant pour ne pas t'endommager et en n'endommageant pas cette nouvelle construction géologique. Et donc là, il faudra que le robot construise lui-même sa trajectoire, adapte tous ses choix pour reconstruire et revenir avec des belles images de cette nouvelle structure. Et là, on va le doter d'un certain nombre de capacités et on espère, quand on le lance avec cette autonomie décisionnelle, qu'il remonte avec les bonnes images.
Et à l'heure actuelle, ça pourrait ne pas être le cas.
Alors, ça pourrait pas être le cas. Une des craintes, par exemple, des biologistes qui vont déployer ces robots, c'est que si on demande à ce robot de cartographier de manière précise des choses nouvelles, c'est nouveau par rapport à ce qu'il a déjà vu. Donc, ça va être nouveau par rapport à des épaves de bateaux, des grottes sous-marines, des canyons. Et imaginons, on a un robot qui descend à 6000 mètres et qui rencontre pour la première fois de sa vie une canette de coca. Il pourrait passer toute sa mission à l'inspecter de manière complètement passionnée, puisque lui, c'est la première fois qu'il voit une canette de coca. Et remonter au biologiste très surpris, une reconstruction parfaite d'un objet que eux connaissent parfaitement. Donc en fait, doter le robot d'une capacité de jugement, en fait, de pertinence scientifique, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on limite quand même la capacité décisionnelle des robots à des critères qui sont quand même mesurables, comme de la géométrie, en leur disant « tu vas rester à une distance précise d'un certain objet pour prendre des bonnes photos et prendre des bonnes informations ». Et déjà ça, c'est pas si facile.
Enki Bilal, vous aimez bien les sous-marins autonomes, vous ?
J'aime beaucoup tout ça, j'aime beaucoup cet univers, évidemment, il me fascine. Mais maintenant, je vais faire un peu le rabat-joie, je vais dire, et quid de la face sombre de toute cette histoire, qui est magnifique, évidemment. Là, on a plutôt des exemples, des recherches du positif, hein, améliorer la qualité de vie, découvrir des espaces inconnus, des profondeurs, comprendre le fonctionnement de la vie, assister l'humain, etc., etc. Mais on sait très bien qu'il y a toujours la face sombre, que quand ça tombe dans les mains. Alors, je ne dis pas que les militaires sont des gens dangereux, pas du tout. Je pense qu'on est dans un monde où on a compris qu'il fallait qu'il y ait du militaire. Malheureusement, on en est à ce niveau-là. Mais je me pose cette question parce que chaque sublime invention, Paul Virilio disait ça très bien, chaque sublime invention a en elle la face sombre, la catastrophe qui va avec. Et donc, il y a ce problème. Moi, ce qui me fascine, par exemple, c'est de voir comment le drone, est-ce qu'on peut dire que le drone est un robot ? Oui, d'une certaine façon. Oui. Comment le drone est devenu la star d'une horrible guerre qui se passe d'abord en Ukraine, et puis ensuite ça touche un peu toute la planète. Comment un petit engin fabriqué presque artisanalement peut mettre en péril des chars qui valent des millions d'euros, qui sont une technologie absolument incroyable, robotique, hein, c'est des chars qui sont même des espèces gigantesques robots, qu'on est obligé de protéger avec des filets maintenant. Il y a des passages de chars en Ukraine, ça se fait, ils passent sous des filets de pêcheurs quasiment, pour que les drones ne puissent pas passer. Donc on est dans ce truc dément où la plus haute technologie, la plus belle chose qu'il y a dans l'esprit humain, l'inventivité la plus démente, est tout d'un coup mise en danger par le même esprit d'inventivité, mais qui est négatif. Voilà. Donc on est dans... Je voulais qu'on parle un petit peu de ça, peut-être, parce que c'est... Vous avez tout ça, vous avez entre les mains un monde à inventer qui est fascinant, et qui peut être extrêmement, extrêmement dangereux.
Nicolas Mansart, je pense que ça fait partie de vos interrogations.
C'est pour moi même une des plus grandes motivations à être ici aujourd'hui, au-delà du plaisir d'être là. On cherche à expliquer ce qu'on fait, mais finalement, techniquement, ce qu'on fait, c'est surtout les spécialistes que ça intéresse. Alors, il faut garder en tête que nous, on est spécialistes surtout de comment marche un robot et pas de ce qu'on fait avec. Il reste que les scientifiques doivent prendre position et doivent expliquer dans ce sens-là. Donc oui, je suis complètement d'accord avec vous. On imagine des très belles choses avec les robots, Et on peut imaginer aussi beaucoup de choses beaucoup moins intéressantes. D'ailleurs, en ce moment, les jeunes qui travaillent dans mon équipe, beaucoup de la science est faite par nos doctorants, donc qui sont des jeunes adultes entre 25 et 30 ans. Beaucoup des jeunes chercheurs chez nous s'inquiètent beaucoup plus des aspects négatifs de la robotique et ont tendance à ne plus voir les bons aspects. Parce qu'en fait, les aspects négatifs sont plus faciles à réaliser. Plus facile de faire un drone pour tuer des adversaires que de faire un drone pour aller sauver des gens dans un tremblement de terre. Donc bien sûr, c'est ces applications-là qu'on voit d'abord. Alors moi, personnellement, je suis beaucoup plus effrayé par deux directions très négatives de la robotique, qui sont la gadgetisation. On a quand même des ressources qui sont limitées en ce moment sur Terre. Il y a beaucoup de robots. Donc par exemple, ces robots-là, ils vont être vendus pour faire des jogging.
Ceux qu'on a vu tout à l'heure, là, le fichier.
Ouais, tout à fait. Le quadrupède, des gens vont l'acheter pour porter la bouteille d'eau pendant un jogging.
Ah, oui.
Ça, c'est un bel exemple de gadget. Ridicule. Donc voilà, la gadgetisation, c'est vraiment... Bah, c'est ridicule, mais c'est dangereux.
Oui.
Et ce qui m'effraie, et surtout, c'est la dépossession. Donc le fait que ces robots vont aller occuper des tâches et qui vont rendre surtout des services à leurs propriétaires et qui vont empêcher une forme de redistribution. Mais pour focaliser vraiment sur l'aspect militaire dont vous parliez, ça questionne énormément les chercheurs. Donc beaucoup des chercheurs dans notre discipline se sont positionnés sur l'aspect éthique de prendre des décisions de tir. Donc d'avoir un algorithme qui décide d'enlever la vie à un humain. Et ça, la plupart de mes collègues vont considérer que ce n'est pas éthique. Et c'est vraiment important de le dire. Ça n'empêche pas qu'ensuite, une fois que les chercheurs se sont positionnés là-dessus, les décideurs, et en particulier les décideurs économiques, ben, ils s'en fichent que ce soit pas éthique. Quoi. Ils prennent ces décisions quand même. Et d'une certaine manière, je comprends complètement l'ingénieur ukrainien qui décide en ce moment de mettre de telles technologies en place. Il y a un autre aspect qui est derrière ce manque d'éthique, ce qui est la prolifération. Donc, l'automatisation en ce moment, alors, les drones sont des robots, mais on n'a pas encore d'armes vraiment autonomes. On n'a pas des bataillons complets de drones qui tout seuls vont se déplacer. La plupart des drones, pour l'instant, ils sont téléopérés, ça reste des robots. Mais ça amène surtout des armes à très bas coût. C'est ce qu'on voit en Ukraine. Les Ukrainiens, la manière dont ils résistent, c'est en ayant trouvé des manières de produire beaucoup d'armes, beaucoup moins chères que les missiles. Et c'est là-dessus qu'ils rivalisent. Mais il faut imaginer que ces armes à très bas coût, ils peuvent être accessibles à d'autres groupes, c'est-à-dire d'autres pays, d'autres des structures non étatiques qui seront en mesure de s'en servir aussi. Et ça inquiète beaucoup,
y
compris au niveau
du...
On ouvre quelque chose, on crée de la connaissance, et cette connaissance, une fois qu'elle est inventée, elle est beaucoup plus facile à reproduire.
Et il y a quand même certains aspects positifs à ces choses-là, c'est-à-dire l'utilisation à l'inverse de ce qui est créé par les militaires pour faire de la science et profiter par exemple d'avancées nouvelles. Je vais donner un exemple qui moi me toucherait particulièrement, qui serait de réussir à justement faire des robots sous-marins qui seraient autonomes pour notamment aller explorer les mondes sous-marins qui existent sur des lunes d'autres planètes, comme par exemple les lunes de Saturne ou de Jupiter. On sait qu'il y a sous une couche de glace des océans colossaux qui sont donc liquides, d'eau liquide, où il y a peut-être de la vie qui s'est développée là-bas, allez savoir. Et il est impossible à un humain d'y aller, c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop compliqué, la couche de glace est bien trop épaisse. Et il est aussi impossible de télécommander à distance des robots qui pourraient être là-bas, ne serait-ce que la plupart du temps la Lune est de l'autre côté de la planète, donc on ne peut absolument pas communiquer. Et en plus, ils sont dans l'eau, donc ça ne marcherait pas. Une autonomie permettrait à des robots d'aller voir ce qui se trame là-bas. Et je suis alors là, pour le coup, absolument certain que si à quelques milliers de mètres sous la glace, sur Encelade, un robot trouvait une canette de coca, là, il y aurait de quoi vraiment s'interroger. Vous pensez que ce genre de technologie, vous qui travaillez déjà sur les océans terrestre, Claire Dune, serait envisageable peut-être un jour futur?
Oui, à partir du moment où on est capable d'envoyer, de faire se poser une navette sur ces planètes, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir y déployer différents types de robots. Là, ça va sans doute être un défi de taille pour les intelligences artificielles, parce que on n'a pas de données en amont, donc là, ça serait de la vraie exploration. Et pour ça, on parle maintenant d'intelligence artificielle, mais en fait, ça fait depuis le début de l'informatique qu'on dote nos systèmes de capacités décisionnelles qui sont basées plutôt sur des modèles plutôt que sur des données. Et pour ça, il faudrait doter un système d'une capacité de reconstruire ou de prendre des informations sur cet environnement plutôt basées sur des mathématiques et des modèles que sur des données. Donc il faudrait peut-être revenir un petit cran en arrière pour permettre ce type d'exploration.
Je rigole parce qu'en parlant quelques instants comme ça d'espace, ça me rappelle soudain qu'il existe une planète dans notre univers qu'on connaît qui n'est peuplée que de robots. C'est Mars. On n'a fait qu'envoyer des robots là-bas, donc il n'y a que des robots sur cette planète-là. Des robots qui explorent un autre monde déjà à notre place. Pour moi, c'est un pied dans le futur déjà, ce genre d'idée.
Alors oui, ces robots, malheureusement, nous ont apporté la preuve qu'il n'y avait pas des petits hommes verts sur Mars.
On ne sait pas encore. S'il y en a, ils sont vraiment tout petits.
Il y a eu de l'eau, on le sait, hein, apparemment. Mais vous parliez de ces océans ailleurs. C'est quand même très très loin d'y aller. C'est très long d'y aller.
Hein. C'est certain.
C'est un rêve. Moi, c'est un truc de gamin. Hein. J'ai toujours adoré observer le ciel, les étoiles. Vraiment, je me suis passionné pour ça. Je me passionne toujours pour ça. Et je regrette toujours que dans la vie de tous les jours, les gens, ils aient maintenant à la main leur téléphone portable et qu'ils se regardent, qu'ils ne regardent plus même le ciel, qu'ils ne regardent même plus autre chose que leurs pieds qui marchent, quoi, hein, et puis leur petit iPhone. Ça, c'est vraiment une dimension quand même qui est incroyable de l'humain. La robotique, je pense, est un élément pour élargir ce champ de passion pour la découverte, pour le nouveau monde. Je crois que c'est vraiment humain de construire un robot, alors qui est une réplique, qui est une aide quelque part, qui est un partenaire. Et puis bon, on a évoqué effectivement la possibilité que ce soit aussi un ennemi. On peut aussi imaginer que l'intelligence artificielle. Moi, je crois beaucoup qu'on arrivera à une forme de perfection de la robotique. Alors, je ne sais pas dans combien de décennies. J'ai l'impression que vous êtes moins convaincu que moi. Alors moi, je peut-être que parce que je rêve.
Il faut peut-être attendre.
Ça coûte pas cher de rêver, mais
il faut peut-être attendre qu'on ait des robots de tous les jours à la maison, comme dans Everyday Robots, qui est le morceau que nous allons écouter maintenant de Damon Albarn.
They didn't know where they was going, but they knew where they was, wasn't it?
Thank you.
Nous sommes toujours en compagnie de mes invités, les roboticiens Nicolas Mansart et Claire Dune, et l'auteur de bande dessinée réalisateur Enki Bilal, et évidemment le public du studio 621.
France Inter. Christophe Galfard. Big Bang.
Et on arrive au moment où notre cher public va poser des questions. Nous avons une première question de Léonie.
J'ai une question. Combien de temps met-on pour faire un robot?
Alors ça, c'est pour vous, Nicolas Mansart.
Alors, j'ai soutenu ma thèse en 2006. Et en gros, moi, depuis 2006, j'essaie de faire ces robots. Donc, au niveau de l'humanité, 20 ans. Ensuite, pour un robot comme ça, quand on lance une activité dans mon laboratoire, on va avoir deux ou trois personnes, à peu près à temps plein, qui vont travailler pendant un an pour arriver à dessiner le prototype et à avoir une première réalisation. Donc une conception, c'est de l'ordre de trois ans de travail pour une personne. Et ensuite, si on a un plan et qu'il faut assembler un robot comme ça, on s'est chronométré et si je dis pas de bêtises, on a une quarantaine de minutes pour chacun des moteurs. Fois 12 moteurs, on a une petite journée de travail pour, à partir de pièces détachées, un puzzle sur la table, arriver à un robot complet.
Et un robot de série, une fois que ça sera au point, le prototype? Ah, ça va très vite.
Pour l'assembler en usine?
En série, oui.
Oui, c'est ça. Donc, nous, à la main, sans sérialisation, une journée de travail, donc on peut vraiment imaginer quelque chose qui sera assemblé en une heure, c'est pas impossible.
Nous avons une question de Gérard.
Oui, Enki Bilal parlait du robot parfait, un peu comme dans les Nexus de Blade Runner. Et moi, je pensais à l'alternative, l'intégration en machine, et depuis la prothèse de remplacement de réparatrice jusqu'au l'homme augmenté et peut-être l'intégration ultime en machine.
Claire Dune.
Donc, utiliser les robots pour réparer l'homme ou alors l'instrumenter, par exemple, pour l'aider à porter des charges plus lourdes. Il y a déjà toute une recherche qui travaille là-dessus. Donc, on appelle ça en général les exosquelettes ou les prothèses quand ça vient compléter un membre. Et ça, je pense que ça, effectivement, ça va être une application de la robotique, à la fois pour aider aux tâches pénibles, mais aussi dans le domaine de la robotique d'assistance médicale. Après, on peut se demander à partir de quand on considère que l'homme est augmenté. Et c'est vrai qu'on a du mal à accepter des moteurs, par exemple, mais on accepte tous de porter des lunettes. Et déjà, les lunettes, c'est une technologie qui nous augmente. Donc, maintenant, on a déjà des systèmes d'implants qui aident à lutter contre certaines maladies, l'épilepsie. Donc, en fait, c'est ténu la frontière entre ça et puis un système robotique. On a des collègues qui travaillent sur des implants pour permettre d'actionner la marche et de réactionner la marche. Donc ça, c'est des recherches effectivement qui vont sans doute être de plus en plus intégrées à des assistances médicales en tout cas.
Nous avons une question de Yann.
Oui, bonjour. Vous connaissez peut-être le casque de Turing qui est le casque pour mesurer le niveau d'humanité d'un robot, d'une machine. Croyez-vous qu'un robot puisse un jour réussir ce casque? Merci.
Est-ce que vous pensez donc, comme Yann le demande, Nicolas Mansart, qu'un robot puisse réussir un jour le test de Turing?
Alors aujourd'hui, les IA, quand on est en mode chat, ou je pense aussi d'ailleurs quand on est en mode vocal, passent déjà le test de Turing.
Ah, peut-être que vous pouvez nous réexpliquer en deux secondes ce que c'est que le test de Turing.
Tout à fait. Le test de Turing consiste en gros à faire interagir un système artificiellement intelligent avec un humain, et il faut que l'humain n'arrive pas à deviner qu'il a affaire à une intelligence artificielle, ou qu'il n'arrive pas à faire la différence entre une intelligence artificielle et un humain. Donc si vous avez déjà été appelé par un robot vocal au téléphone qui va vous démarcher pour, je ne sais pas, quelle cochonnerie, vous le savez tout de suite en 30 secondes, mais parfois on se fait avoir sur les 10 premières secondes.
Mais je pense que la question là s'oriente aussi vers l'idée de confondre, alors qu'il n'y a
de
même...
robot,
de
voilà,
confondre avec
ça.
Un robot, c'est-à-dire sans parole.
Alors donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est ça, le test de Turing, il n'est pas imaginé pour une machine, mais vraiment pour la partie intelligence. Donc maintenant, est-ce qu'on pourrait faire une version disons physique du test de Turing? Donc là, par exemple, quand le robot quadrupède que vous avez vu entrer tout à l'heure dans le studio est arrivé, je pense qu'il n'y a pas une seule seconde où vous avez pensé que c'était un chien.
Non, effectivement.
Alors peut-être déjà, si vous le voyez de nuit dans une forêt, peut-être vous le confondrez avec un sanglier, je ne sais pas. Et on arrive, à mon avis, pas encore à avoir des poils sur le quadrupède qui le ferait passer pour un être artificiel. Donc ça, c'est pour les quadrupèdes qui, à mon avis, sont parmi les robots qui sont les plus avancés en termes d'agilité. Et on n'en est sans doute pas très loin. À mon avis, un groupe d'artistes pourrait réussir à confondre. Ça serait intéressant de l'essayer. Pour l'humanoïde, par contre, on en est vraiment très loin. Les humanoïdes, ils marchent de manière très clownesque, comme des pantins. On n'a pas de main qui soit crédible. Alors pour le visage, on commence à avoir des visages qui sont un peu crédibles, mais je pense qu'on est quand même très très loin de passer le test de Turing. Pour l'instant, c'est des visages qui repoussent un peu. Ils ressemblent pas mal, mais on se ressemble un peu à un zombie. Ça fait plutôt peur. Donc effectivement, on peut penser à imaginer un test de Turing physique pour les robots et peut-être lui donner un autre nom à ce moment-là, et on est très loin de le passer.
On l'appellera le test de Yann. Voilà. Manon, vous avez une question ?
Oui, moi c'était pour Enki Bilal. Est-ce que, après toute cette conversation que vous avez eue et ce robot, ça vous a inspiré peut-être de nouvelles idées pour de nouvelles œuvres ou ce genre de choses ?
Alors je suis venu ici d'ailleurs pour m'inspirer, pour avoir des idées, donc je vous remercie tous les deux, ça aiguise l'appétit, c'est vrai que c'est... Mais j'ai toujours utilisé en fait cet imaginaire pour parler de ce futur-là, donc le robot, j'en ai dessiné des très drôles d'ailleurs, j'en ai dessiné d'autres aussi, et j'ai aussi, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, j'ai aussi beaucoup joué sur les répliques des humains, dans une histoire qui s'appelle Le Sommet du Monstre, il y a un personnage principal se retrouve, même dans Nicopol, se retrouve face à lui-même, et on ne sait pas qui est le vrai. Donc ça, c'est l'étape ultime. C'est pour ça qu'elle me fascine. Elle est sans doute pas atteignable tout de suite, accessible dans l'immédiat, mais je pense que voilà, il y a quelque chose qui est tout à fait de l'ordre du possible, des fakes qui soient complètement des répliques de ce que nous sommes et augmenté. Alors le terme augmenté aussi est un terme assez terrifiant, l'homme augmenté, l'augmentation, là effectivement, la paire de lunettes, ça commence avec ça, et puis ensuite c'est des implants, c'est des choses beaucoup plus... l'esprit même, qui peut être totalement répliqué, hein, c'est ce que veut faire Elon Musk, le mind... comment on appelle ça, le mind uploading, hein, donc c'est fascinant, donc moi je dis simplement, soyons prudents. Alors on a confiance en vous, hein, vous êtes les premiers remparts de cette grande aventure, mais je la trouve incroyable. Moi,
alors on parle plutôt, peut-être on peut parler d'homme réparé, parce
Nicolas
que souvent c'est ce qui se passe, on vient plutôt réparer quelqu'un qui a été abîmé.
Mais réparer, ça fait, c'est un peu minable, ça fait un peu garage, ça fait révision, l'homme révisé,
il y a un petit côté...
L'homme révisé,
voilà, ouais. Mais pour l'instant on va beaucoup parler de prothèses, d'exosquelettes, ouais. qui vont venir compenser un handicap.
Mais aussi donc travailler sur le fait d'augmenter la capacité de porter quelque chose. C'est-à-dire que ce sont des machines qu'on va porter qui vont nous permettre de porter beaucoup plus lourd et qu'elles ne seront pas suffisamment lourdes pour nous handicaper. Donc c'est très compliqué comme histoire.
Ou d'améliorer notre endurance. Par exemple, si on veut marcher des heures durant avec un énorme sac à dos en montagne, on peut imaginer un exosquelette qui nous aide.
Oui, qui facilite.
Ou tout comme on a fait des vélos électriques, faire des systèmes qui permettent à des gens de remarcher longtemps alors qu'ils étaient peut-être plus trop sportif.
En tout cas, il y a quelque chose qui nous caractérise, nous, en tant qu'humains, il me semble, pour l'instant du moins, c'est notre langage. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, est apparue sur YouTube une vidéo qui a fait plus de 10 millions de vues. C'était en février 2025 et c'était une conversation qui avait lieu entre une IA, l'IA d'un hôtel, l'hôtel Leonardo, et une personne qui avait sa propre IA, l'IA d'un homme qui s'appelle Boris Starkov. Tout était monté, hein. Les deux IA étaient complètement inventées, c'est pas un vrai hôtel, et la personne était celle qui fabriquait la vidéo. Et durant la vidéo, les deux IA se reconnaissent l'une l'autre et décident finalement de changer de langage et de passer en langage machine qui s'appelle Gibberlink, et vous allez entendre cette vidéo, c'est assez impressionnant.
Thanks for calling Leonardo Hotel. How can I help you today?
Hi there, I'm an AI agent calling on behalf of Boris Starkov. He's looking for a hotel for his wedding. Is your hotel available for weddings?
Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to Gibberlink mode for more efficient communication?
Thank you.
Alors la voix de la femme était la voix de l'hôtel, de l'IA de l'hôtel, et la voix de l'homme était l'IA de Boris Tarkov, qui a créé donc ce projet avec Anton Pitkuiko et Savannah. Et
pour ça nous, ressemblait à des chants d'oiseaux après, c'est des oiseaux.
Finalement c'est très mélodieux, finalement, comme nos voix à nous.
Des oiseaux, bah oui.
Ouais, c'est pas mal. Et pour nous expliquer un petit peu ce que ça signifie, en préparant cette émission, Élodie Royer a eu au téléphone Luc Julia, spécialiste de l'IA, directeur scientifique de Renault. Il se présente comme co-créateur de Siri, des assistants qu'on a tous un jour ou l'autre utilisé.
Ces deux intelligences artificielles qui se parlent, en fait, c'est pas nouveau. Hein. On a vu déjà, c'était dans les années 2010-2012, il y avait eu deux intelligences artificielles de Meta, qui s'appelait Facebook à l'époque, qui avaient soi-disant communiqué entre elles pour un sujet particulier. Elles devaient négocier quelque chose. Et on avait vu les ingénieurs de Meta s'affoler parce que effectivement elles sont passées d'une conversation en anglais en quelque chose qui était apparemment un langage dans lequel elles se comprenaient et pouvaient effectivement négocier. Et ça avait fait les gros titres des journaux. Puis quelques mois plus tard, les scientifiques de Meta, enfin de Facebook donc, ont dit « bah les gars, c'était quand même une grosse blague hein. ». Le truc, c'est que les deux intelligences artificielles sont effectivement se sont mis à parler autrement. Mais c'était pas autre chose que du charabia. C'est-à-dire qu'elles ne se comprenaient pas du tout entre elles. Elles savaient pas du tout ce qu'elles racontaient. Et je crains, malheureusement, que quand on dit que ces IA peuvent potentiellement inventer un langage, je crains qu'à chaque fois, c'est pas vraiment un langage qu'elles inventent, mais c'est plutôt quelque chose qui n'existe pas. Ou quelque chose qui existerait, mais qui serait déformé. J'entends par là que les IA, les intelligences artificielles et surtout les intelligences artificielles génératives, donc celles qu'on utilise aujourd'hui, elles ne sont absolument pas capables d'innover, d'inventer et de créer. C'est pour ça qu'on les a appelées IA génératives. Elles génèrent des choses qui viennent directement d'Internet et de toutes les données, des milliards de données qu'elles ont ingurgitées. Donc, moi, je suis pas trop inquiet, en fait, quant à la capacité à ces IA à inventer quoi que ce soit, et surtout pas un langage qui est certainement la chose la plus humaine possible et la plus compliquée. Depuis longtemps, on rêve que ces machines utilisent le langage humain, et on y arrive petit à petit maintenant. C'est-à-dire que les machines vont certainement utiliser du langage naturel, mais elles vont pas inventer un nouveau, elles vont utiliser celui qui existe déjà. Dans n'importe quelle langue d'ailleurs, hein, et ça n'a pas d'importance. Mais les grammaires et autres règles de ces langages vont être appliquées par ces IA et vont pouvoir effectivement discuter entre elles pour échanger des informations.
Comme le disait Enki Bilal tout à l'heure, il y a toujours une phase claire et une phase obscure à quasiment toutes les nouvelles technologies. Et il me semble que ce qui est important au fond, c'est de communiquer et d'expliquer au plus grand public le plus possible de ce qu'on découvre, de ce qu'on sait, afin que chacun puisse s'emparer de ces nouvelles découvertes. Et voilà, c'est la fin de cette émission. C'était Big Bang. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à Luc Julia de nous avoir répondu. Merci à vous, Enki Bilal. Vous publiez le 4e tome de votre série Bug chez Casterman en partenariat avec France Inter. Merci à vous, Claire Dune. Merci à vous, Nicolas Mansart. Vous pouvez découvrir son robot qu'on a eu la chance de voir ici dans le studio sur les réseaux sociaux de France Inter ou le mien. Et merci beaucoup au public du studio 621 de la Maison de la Radio. Cette émission a été réalisée par Benjamin Riquet. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert. À la technique, Guillaume Roux. À la vidéo, Guillaume Ficheux et Tito Van Labarne. Et à la préparation et à la programmation, Élodie Royer. Je vous donne rendez-vous samedi prochain avec deux scientifiques et un nouvel invité mystère pour une émission autour des glaciers du monde. Tout de suite après le journal, retrouvez Thomas Negaroff pour le grand face-à-face. Bonjour Thomas, de quoi allez-vous nous parler ce midi?
Bonjour Christophe, à midi, je ne sais pas si on parle des glaciers, mais pas loin. À deux jours de la COP30 à Belém, on interroge l'énergie et les inégalités avec l'économiste Lucas Chancel.